Vous écoutez Aube, une émission présentant des initiatives qui cherchent à réaliser une autre vision du monde. Nos émissions sont disponibles en balado et chaque capsule peut être téléchargée via laplumedefeu.com.
Aube, épisode Y.
Ah, enfin, une escale.
Une étape dans notre long chemin.
Oui, oui. Après avoir été dans l'espace, avoir voyagé sur les routes, s'être immiscé dans la politique, réinventer l'éducation.
Avoir abordé la vieillesse, s'être promené dans le bois, être retourné en ville.
Voir ce qui se passait ailleurs. On a parlé de mode, d'économie, et j'en oublie-tu?
Aujourd'hui, on a décidé de vous présenter notre émission sous la forme d'une étape.
Pour cet épisode Y, Aube vous propose de faire escale à la croisée des chemins, sur le pied de la gare. Laissez grimper les nouveaux passagers, s'assurer que vous n'avez pas besoin d'aller au pipi room, ou que vous savez où est le wagon-bar, le restaurant.
Dans cet épisode, les capitaines de Aube vous invitent donc à prendre une rétrospective. Et pourquoi pas, à nous faire parvenir vos suggestions de thématiques, commentaires et autres.
Au sommaire, le monologue Transport en collaboration.
Un reportage sur le compagnonnage en France.
Le radiothéâtre perdu dans Babylone.
L'apostrophe de M. Tubercil porte aujourd'hui sur les objets enchantés.
La perception du métro dans le cinéma québécois.
Un hommage aux pirates de Schlaga.
Autobus 66 de Boulevard.
Les 7 principes du camping sans trace.
Et pour conclure, Bagdad Café.
On te propose de te rassembler autour de valeurs humaines, écologiques et collectives, de prendre action simplement par une prise de conscience.
Le mot-clé, escale.
Le matin, quand je sors de chez nous, je prends la première rue qui m'emmène au cœur du village. J'y vais à pied. C'est plus relax. Ça me permet de passer par le parc, puis d'arrêter prendre un café au coin de la première rue, puis de la rue principale. Assis sur le petit banc au coin de la rue, je sirote mon allongée tranquillement en regardant les autres citoyens arriver par les petites artères qui se déversent tranquillement sur la rue principale. Moi, je joue à imaginer d'où ils arrivent, en attendant Simon. Simon, c'est lui qui m'a recruté comme chauffeur de la Société des transports en collaboration. Lui, il conduit un petit pédalobus qui relie les petits villages entre eux jusqu'au terminus au pied de la montagne, où le boulevard prend sa source puis descend jusqu'au centre-ville. Le pédalobus de Simon est jamais en retard, c'est sa fierté. Peu importe qu'il soit le premier voyage de la journée et qu'il soit pas beaucoup à pédaler. Comme tous les jours, 5 minutes avant l'heure, Simon arrive. Je m'installe à côté de lui, je me mets à pédaler. À partir du troisième arrêt, on commence à être assez de monde pour que le pédalobus avance sans que personne ait besoin de forcer. Ça tombe bien, parce que Mme Simard embarque toujours au quatrième arrêt. À 90 ans, Mme Simard est encore en pleine forme. Mais elle est toute petite, puis ses pieds rejoignent à peine les pédales. Comme tout le monde qui prend le transport en collaboration, elle fait son effort. Mais les journées comme aujourd'hui, quand il fait beau puis il y a des pédaleurs en masse, Mme Simard vient s'asseoir entre moi puis Simon, puis elle nous lit les nouvelles dans le journal. Quand elle arrive à la page de l'horoscope, Mme Simard sonne la petite cloche pour débarquer. Je lui demande toujours de me dire qu'est-ce que ma journée me réserve, mais elle me dit qu'elle n'a pas le temps, qu'elle est attendue quelque part. Je me demande bien où la petite Mme Simard de 90 ans peut être attendue chaque matin. On poursuit notre route dans le pédalobus de Simon de village en village. Les pédaleurs embarquent puis débarquent. La majorité reste avec nous jusqu'au terminus de la montagne. C'est là que je débarque moi aussi. Je dis au revoir à Simon, qui reprend son chemin dans le sens inverse. Je lui donne une petite poussée pour l'aider à repartir parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de pédaleurs dans son pédalobus. Puis je me rends jusqu'au garage pour prendre mon cyclotrain. Quand j'ai commencé à conduire des cyclotrains pour la Société de transport en collaboration, la technologie n'était pas trop au point. Il n'y avait pas de ventilation, pas de petit moteur électrique pour nous aider dans les côtes. Il fallait vraiment que tu veuilles aller en ville. Mais aujourd'hui, relier nos petits villages où on habite puis le cœur de la ville qui bouillonne de créativité, c'est un jeu d'enfant. En arrivant, je déploie les panneaux solaires. Ça charge un petit peu la batterie. Je pédale un petit coup pour donner un premier kick, puis je pars. Au premier arrêt, le cyclotrain se remplit déjà à moitié. À gang, on n'a plus besoin du moteur électrique. Par le troisième ou quatrième arrêt, on a comme pogné le beat. Les pédaleurs peuvent déjà commencer à relaxer. J'aime ça faire la run du boulevard, parce qu'il y a toujours plein de monde dans le cyclotrain. Ça fait que les enfants puis les personnes âgées n'ont pas besoin de pédaler trop fort. C'est sûr que le principe du transport en collaboration, c'est que tout le monde collabore, justement. mais je préfère quand il y a suffisamment de jeunes adultes qui embarquent pour que les autres puissent prendre ça un petit peu plus mollo. Juste avant de descendre la grande côte qui mène au cœur de la ville, j'embarque Arthur. La première fois que j'ai embarqué Arthur, il y avait une face de gars qui avait pas dormi de la nuit, puis un gros sourire de matin de Noël. Depuis ce matin-là, je le vois tout le temps. Toujours le même arrêt, toujours le même sourire. Je pense qu'Arthur est amoureux. On descend la grande côte jusqu'à la grande place au cœur de la ville, où tout le monde débarque puis vaque à ses occupations. Moi, j'ai plus d'obligations jusqu'à la fin de la journée. J'en profite pour aller au musée. Au musée de l'automobile. Moi, ça me fascine, cette machine-là. Ben tiens, juste son nom. Le suffixe « mobile », qui fait référence au déplacement, mais le préfixe « auto », qui fait référence à « tout seul avec soi-même ». Aujourd'hui, ça paraît évident que c'est pas pratique de se déplacer seul. On est bien mieux de se mettre en gang. Ça demande bien moins d'énergie. Dans un cyclotrain comme le mien, il rentre presque 1000 pédaleurs, alors que ça prend 1000 automobiles pour déplacer autant de monde. Ils disent que seul on va plus vite, mais qu'ensemble on va plus loin. Je suppose que dans le temps de l'automobile, ils voulaient aller vite. Maintenant, je suppose qu'on veut aller plus loin. Après ma visite au musée, je retourne à mon cyclotrain. En fin de journée comme ça, le cyclotrain se remplit tranquillement. On attend d'être assez pour partir parce qu'il faut monter la côte. C'est sûr qu'on a le petit moteur électrique pour nous aider, mais on sait qu'on va être beaucoup à vouloir rentrer, alors ça sert à rien de voyager vide. Le chemin du retour est toujours très silencieux. Le soleil se couche tranquillement pendant qu'on réfléchit à notre aventure de la journée. En arrivant au terminus du boulevard, on va tout le monde reprendre les pédales au bus pour retourner tranquillement dans nos cœurs de village. À partir de nos rues principales, on va tout le monde reprendre nos petits détours pour rentrer tranquillement jusqu'à la maison. On sait qu'il nous reste encore pas mal de chemin à faire, mais on peut être fier du chemin parcouru. La plupart des grandes épopées humaines se sont accomplies d'est en ouest.
De tout temps, l'homme a suivi la course du soleil, s'interrogeant sur le lieu où s'abîmait la boule de feu.
Ulysse, Christophe Colomb, Attila, tous ont cru qu'à l'ouest était la solution. Partir vers l'ouest, c'est vouloir connaître le futur.
Cependant, si certains se sont demandé où allait le soleil, d'autres ont voulu savoir d'où il venait.
Aller vers l'est, c'est vouloir connaître les origines du soleil, mais aussi les siennes propres. Marco Polo, Napoléon, Bilbo le Hobbit sont des personnages de l'Est. Ils pensaient qu'il y avait quelque chose à découvrir là où commencent les journées.
Dans la symbolique des aventuriers, il reste encore deux directions.
Aller vers le nord, c'est chercher des obstacles pour mesurer sa propre force.
Aller vers le sud, c'est rechercher le repos et l'apaisement.
Un texte de Bernard Werber, tiré de l'Encyclopédie du savoir relatif et absolu.
Tonnelier, plâtrier, vigneron, maréchal ferrant, sellier, bottier, jardinier, pâtissier, tailleur de pierre ou métallier, charpentier de marine, ces métiers ne vous disent peut-être pas grand-chose. Vous pouvez devenir plâtrier ou plombier en suivant l'apprentissage traditionnel, mais vous pouvez aussi appartenir à un corps d'artisans d'élite, les compagnons du devoir. En termes d'apprentissage, le compagnonnage est à la fois une école, une manière de vivre autant qu'un corps professionnel d'élite. Ordre français ancré dans une tradition datant du Moyen-Âge, date des premiers écrits qui en parlent, et auréolé de secrets, les compagnons surfent largement sur l'actualité. Ils sont porteurs d'une tradition héritée de l'âge d'or des cathédrales au XIIe siècle et se sont adaptés parfaitement aux nouveaux outils de la modernité. L'ordre met en avant le transfert de connaissances entre maître et élève, un apprentissage teinté de respect et de motivation à toute épreuve. Après être tombé en désuétude en même temps que l'artisanat durant la grande époque de l'industrialisation au début du XXe, les compagnons sont aujourd'hui réputés partout dans le monde pour l'excellence de leur travail et leur discipline. Un compagnon menuisier pourra par exemple autant travailler en design de meubles que sur des escaliers en bois noble ou sur des installations intérieures de bateaux. Toute personne peut devenir compagnon. Les jeunes avant 15 ans entrent dans la corporation comme apprentis, mais il est possible aussi d'en faire partie lorsque l'on possède déjà une formation et que l'on souhaite se spécialiser. Depuis quelques années, les filles peuvent même devenir compagnons. Le jeune élève est déclaré aspirant compagnon lors d'une cérémonie spécifique. Il reste en moyenne 4 ou 5 ans dans l'école et doit effectuer un tour de France qui est la marque de fabrique de l'ordre. Il est envoyé dans plusieurs villes de France et même de l'étranger, chez des compagnons de carrière et loge avec d'autres aspirants dans des maisons à la discipline stricte et gérées par une mère, une maman qui gère l'ensemble et qui pendant longtemps était la seule femme présente chez les compagnons. Le voyage fait partie intégrante de l'apprentissage puisqu'il suppose ouverture, tolérance, complémentarité des techniques et richesse des échanges. À la fin de son apprentissage, l'aspirant effectue son chef-d'œuvre. Ce chef-d'œuvre est examiné par des compagnons confirmés, une œuvre représentant le savoir-faire accumulé pendant ces 5 années d'apprentissage. Lors de la cérémonie dite de réception, son chef-d'œuvre est examiné et il devient alors officiellement compagnon. Une fois devenu compagnon, il continue son tour de France et doit encore un minimum de 3 ans à l'ordre. Les compagnons reçoivent beaucoup durant leur formation et le retour est vécu comme un juste droit, un devoir, le devoir de transmettre aux autres. Les valeurs essentielles du compagnonnage sont le travail, évidemment, mais aussi l'investissement, la collaboration, la solidarité et la droiture, et ce, au quotidien. Le compagnonnage forme davantage que des bons ouvriers. Le but est de former des hommes bons, des hommes de qualité. Lors de la cérémonie de la réception, le chef-d'œuvre est examiné dans ses détails techniques, oui, mais l'individu est lui aussi jugé sur son éthique et son comportement durant toute sa formation. La terminologie utilisée pour décrire le mode de vie des aspirants est largement ancrée dans une tradition séculaire et on respire au quotidien un passé prestigieux qui renforce la fierté d'appartenir à cette communauté. Si vous souhaitez imaginer une cérémonie de réception, pensez rituel, grande toge et protocole. La fierté du compagnon confirmé est proportionnelle à la beauté des chefs-d'œuvre alors élaborés. Il n'est que de voir la beauté d'un travail de serrurier d'art ou d'un couvreur qui taille les ardoises une par une suivant une technique ancestrale. Ces artisans d'exception forment l'élite de l'artisanat et travaillent parfois sur des chantiers peu communs. Par exemple, le charpentier naval qui travaille sur le bateau de l'Hermione, qui est une reproduction d'un ancien trois-mâts datant du XVIIIe siècle et qui a été refait suivant les techniques originelles avec tenons mortaises et clous moulés pièce par pièce. On pense aussi aux tapissiers décorateurs qui effectuent des tentures et des rénovations de fauteuils pour les châteaux ou les palais. Ou bien on pense encore à l'ébéniste qui est capable de sculpter le cadre d'une harpe. Être compagnon garantit l'embauche puisqu'ils sont convoités par toutes les entreprises. Devenir compagnon n'est pas fait pour tout le monde cependant. Celui qui n'aime pas la discipline ou le sentiment d'être lié à une communauté se sentira vite étouffé. Cependant, le compagnonnage est encore aujourd'hui une méthode d'apprentissage qui lie des ouvriers d'expérience à des aspirants très volontaires et fiers de leur savoir-faire. C'est d'ailleurs cette transmission qui a valu en 2010 au compagnonnage d'être reconnu au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO en tant que réseau de transmission des savoirs et des identités par le métier. Pour terminer, j'aimerais citer la doctrine du compagnonnage « Ni s'asservir, ni se servir, mais servir ».
Texte et narration, Aurélie Suberchico.
Nous étions partis de bon matin avec une hache du jus et puis une planche à pain. Atteignîmes la frontière en marchant dessus comme si c'était un fil de fer. Un coup rendu l'autre bord, on s'est laissé aller. Vu qu'il est assez tard, on s'est fait à souper. On est reparti le lendemain matin avec notre hache, le jus et puis notre planche à pain. Nous atteignîmes le marais qui végétait à l'embouchure d'une obscure forêt. C'est là que le sombre animal était caché. L'opinion générale fut donc de le cerner. Le purifie de la musique, haché quand ses pilules dans le petit contenant en plastique. Le maire suivi au saxophone. Pendant ce temps-là, les petits enfants avaient du fun. Vous avez les aïeux qui se mettent à giguer. Elle-même, vous deux, continue à jouer. Danse de singy. caché jusqu'à la fin du jour. Bientôt la nuit se déchaînant et le party se terminant dans le coma. C'est là que profitant de ses corps endormis, l'animal tout doucement glissant dans leurs esprits. Depuis ce temps dans ce pays, on voit des gens qui font tout un maudit paquet de folie. Ils vont chasser dans la nuit blême, avec l'impression de vouloir chasser l'animal d'eux-mêmes. Ah oui, mais l'animal n'a plus à s'en cacher, c'est lui qui mène le bal puis qui les fait danser.
Philippe, comment on décrirait bien ça, là, tout ce chemin-là? Un pèlerinage virtuel?
Le Compostelle hertzien.
Ça fait du bien de prendre une pause dans la création de notre émission, hein?
Ça, qu'est-ce que t'as fait de ta semaine, mon Guillaume?
Ben, j'ai fait de la radio avec Aurélie puis Arnaud. J'ai fait la mise en onde de Jeune Loup Vieux Lion. J'ai passé Kim Rière-Charrette du Sexe à ses raisons en entrevue. Puis j'ai fait un peu de recherche aussi sur... Quoi?
C'est ça que t'appelles un break?
Toi, t'as fait quoi?
Bah, je restais en pyjama tout mon dimanche à écouter les anciens podcasts de Aube.
Ah man, tu peux même parler, t'as full travaillé.
Bah écoute, moi je trouve ça cool de tout mettre ça en perspective.
Toi, c'est quoi ton épisode préféré?
Moi je dirais que c'était dans l'espace, mais c'est bon, c'était mon petit dada là. À vrai dire, moi je les aime pas mal tous. L'épisode sur l'éducation, j'ai bien aimé l'épisode sur les médias, j'ai bien aimé l'épisode sur les relations. Je veux dire, tout ça fait partie un peu de notre histoire maintenant là.
Je trouve ça cool comment dans la campagne électorale, on a fini par présenter un épisode sur la politique qui était suivi ou précédé, je me rappelle plus, d'un épisode sur la mode. Ouais. Puis pourtant, les deux se complétaient complètement.
J'ai aussi aimé ben, quand on était dans le bois. T'sais, on était en plein milieu de l'été, c'était le fun. Je veux dire, juste Guillaume Gérard qui nous a envoyé ses capsules. Il était en plein cœur du parc de la Vérendrye. Je veux dire, pour moi, c'était, il y avait quelque chose de très, très sapiné. C'était très rafraîchissant de recevoir ça.
Ah, les voyages!
Ouais. Ah ouais, définitivement, les voyages. Le problème, je pense qu'on a trop de matériel. On a toujours trop de matériel. J'ai comme l'impression qu'on va être pogné en fin de saison pour faire une émission spéciale avec tout ce qu'on n'aurait pas réussi à diffuser. C'est comme...
Ah, inquiète-toi pas, on va être capable de cuisiner ça. On fera un épisode tout ski.
Pas pire, ça, c'est une bonne idée.
Suite à l'entrevue de Richard Ryan en début d'émission, les décideurs du Grand Babylone ont décidé d'injecter des milliards de bidoux pour végétaliser et transformer les toits de la métropole. Aube a donc dû dépêcher d'urgence deux chroniqueurs sur le terrain afin de constater les faits.
Mais où sont tout le monde?
C'est étrange, on dirait que les rues ont été laissées à l'abandon. C'est vraiment étonnant. La végétation a comme repris ses droits.
Hey! Regarde sur les toits!
Hey, oh! En bas! Mais qu'est-ce que vous foutez là? Vous êtes malade de marcher dans les rues?
Comment on fait pour monter?
Tu vois la balançoire là-bas? Tu t'assois dessus et tu tires sur la corde, on va te faire grimper. Allez, on tire!
Oh, Whis! Oh, Whis!
Une fois sur le toit des immeubles, l'émerveillement peut se lire sur le visage de nos deux comparses. La vie semble s'être redéfinie à partir du toit des immeubles. C'est comme si toutes les occasions étaient bonnes pour abandonner le fin fond des canyons de pierre et les labyrinthes de béton pour organiser une nouvelle vie sur le toit de la cité. Puisque tous les immeubles du quartier se retrouvaient être à la même hauteur, l'horizon au-dessus de Babylone est maintenant verdoyant et luxuriant, et ce, à perte de vue. Des arbres, des lianes, des lierres, des fleurs et des jardins partout autour d'eux. Les animaux sauvages se baladent maintenant librement entre les différents îlots de toiture luxuriants. Des terrasses et des cafés ainsi que des nouveaux commerces en hauteur ont ainsi vu le jour sur le toit des immeubles. On accède maintenant aux habitations par le toit, par des escaliers en colimaçon menant au niveau inférieur. Un service de minerai électrique a même été conçu afin de desservir les différents îlots de toiture. Nos deux chroniqueurs abasourdis n'en croient pas leurs six sens.
Je savais que la radio pouvait avoir de l'impact, mais en si peu de temps!
Regarde là-bas, des oiseaux! Je savais pas qu'il y avait encore des oiseaux à Babylone.
Attends un peu! Un troupeau de chevreuils en plein cœur de la ville!
Les dirigeants ont décidé de relâcher les animaux les plus adaptés au climat d'ici. Ils les ont munis d'un système de repérage pour les récupérer pendant leur période d'hibernation, si le besoin s'en fait sentir. Voilà pourquoi il est devenu si dangereux de marcher sur le plancher des vaches. Hier encore, un cougar attaquait un adolescent insouciant au parc La Fontaine.
Hein? Quoi?
Un cougar?
Oui, ils sont en train de tourner un documentaire sur le sujet, là, car Babylone s'est maintenant décrétée réserve mondiale de la biosphère, ce qui attire maintenant les touristes du monde entier.
Ah! Oh, et les essences d'arbres qui sont maintenant cultivées, noix, fruits, matières ligneuses, bois exotiques...
Oh, wow! Quel jardin!
Dans le ciel! Un épervier!
Ah, vous n'avez pas fini de vous en émerveiller, vous deux! Vous voulez que je vous serve de guide?
Ah, oh, ben oui!
En mini-rail?
Nos deux émissaires en terre babylonienne empruntent le mini-rail en compagnie de leur nouveau guide et ami. Il leur explique l'historique de la profonde mutation entre métropole surpeuplée et polluante et éco-cité axée sur la satisfaction des besoins de ses habitants. Jour 1, la révolte entre les humains et la cité-machine construite pour les voitures. Mais ça, vous le saviez déjà. Jour 2, la fermeture de certains quartiers à forte concentration humaine avec construction d'immenses stationnements en périphérie de la ville. Jour 3, mise sur pied du premier sentier aérien pour les piétons et les vélos qui peuvent maintenant traverser la ville en diagonale. Jour 4, installation du mini-rail le long des sentiers aériens et début de la réappropriation des toitures. Jour 5, abandon total des rues et fermeture de la ville aux automobiles. Invention maintenant totalement désuète puisque le réseau de transport en commun est devenu tellement efficace. Jour 6, réintégration des rivières originales dans les grands boulevards. Le sport à la mode ces jours-ci est le rafting de ville.
Hey, c'est vraiment inspirant cette histoire-là.
Et enfin, pour jour 7, relâchement des espèces prisonnières des zoos et autres parcs thématiques. Et voilà, en peu de temps, le gouvernement babylonien avait enfin réussi à freiner l'exode des jeunes vers la campagne en réglant par le fait même un des plus grands défis de tous les temps, la voiture. Vous n'avez pas encore vu le parc La Fontaine, hein? Véritable zoo à air ouverte. Il est préférable par contre à voyager à bord du mini-rail et surtout de garder vos doigts à l'intérieur.
Tu parlais aussi des rivières à la place des boulevards.
Ah, la plus populaire des rivières urbaines est la Saint-Denis. La voie Camillien-Houd qui tranchait à l'époque la montagne en deux est maintenant une glissade d'eau pour les enfants.
Stupéfiant.
Qu'est-ce que vous avez fait du métro puis de tout ce qui était le Babylone de l'Underground à l'époque?
Ah, tout ça existe encore. Populaire surtout en période de grand froid, mais très rarement utilisé l'été. Le mini-rail glissait silencieusement dans le ciel d'un bleu profond, peuplé d'une faune ailée diversifiée. Nos deux investigateurs questionnaient leur guide sur tous les aspects qui caractérisaient cette utopie d'autrefois, maintenant réalisée.
Guillaume!
Quoi?
Mais réveille-toi, vieux, faut finir de préparer l'émission 8.
Mais j'ai fait un rêve bizarre, là. J'étais sur 7 sur bain, puis il y avait un épervier, je faisais du rafting. Texte tiré de Aube, le recueil de solutions.
Wagner n'a qu'à bien se tenir avec son anneau des Nibelungen, et Tolkien avec celui pour les gouverner tous. Je dois bien dire que les grands de ce monde ont trouvé bien plus qu'un cercle d'or pour dominer l'espèce. Le Roboros se mord la queue dans le consumérisme et tout le monde oublie la magie des artefacts, au profit de l'étonnante facilité des formes à la plastique fébrile. Je lubrifiais tranquillement à l'envi mes belles sacoches en cuir, toutes provenant de voyages différents. Les uns dans des pays insouciants où la matière n'est rien d'autre que le support de l'esprit, et les autres provenant d'espaces tout à fait gouvernés par les lois marchandes. Un tel engouement pour mes sacoches m'avait pris lors d'une étape en Mongolie, lorsqu'un jeune esthète, le crâne rasé et la verve provocante, m'avait fait reconnaître l'insoutenable légèreté de mon être. Que sommes-nous si ce n'est des légendes à accomplir au travers nos actes et nos décisions, aidés quelque peu par des objets magiquement astucieux? Mes sacoches furent durant mes circonvolutions de par le globe d'une utilité autant forte que l'Excalibur d'un Pendragon et même la croix qui fit tomber tant de têtes et canoniser tant de noms. L'objet magique des légendes a su s'adapter, je le pense, aux nécessités d'un quotidien bien moins épique et cependant plus dangereux. Car à l'époque des épées, nous affrontions des démons tangiblement suspects. La corne haute et le bouc fier. Dorénavant, ce sont nos défauts qui nous rongent de l'intérieur. Nos incohérences soupirent, s'étirent sur le canevas de nos vies, nous ne pouvons les détruire sans nous détruire nous-mêmes. Alors survient, comme planté dans un rocher, l'objet magique à consommer inscrit dans l'étalage. Un exutoire fabuleux. Il produit de l'oubli, mais nous en oublions de guérir. Au grand mais, n'oublions-nous pas que chacune de ces légendes, dans l'ombre desquelles soupirent les artefacts, sont le produit des hommes, des objets fabriqués par le biais de leur esprit et de leurs mains. Alors au contraire, loin du consumérisme éperdu de l'objet extérieur, ne pouvons-nous pas consommer de l'esprit ? Déduire que le seul objet à acheter et à aimer reste notre mental, qu'il est à construire dans son infinie splendeur pour devenir de meilleurs hommes et de meilleures femmes. L'objet magique des légendes n'est autre que la projection rayonnante du brillant intellect humain.
Comme tant d'autres, j'étais devenu l'esclave de l'instinct du cocooning Ikea.
Oui, je voudrais commander le protège-poussière Erika Pekari.
Si je voyais une nouveauté ingénieuse, comme une table basse représentant le yin et le yang, il fallait que je la possède. L'ensemble de bureaux Klipsk, le vélo d'appartement Ovetrek, ou le salon au Machab avec le motif Strin à rayures vertes. Même les lampes Rizlampa en papier écologique sans agent blanchissant. Je feuilletais les catalogues en me demandant quel genre de vaisselle me définit en tant que personne. J'avais tout, même les bols et les assiettes en verre, avec des petites bulles et des imperfections, pour prouver que c'était bien l'œuvre des artisans simples, honnêtes et travailleurs des régions rurales de Dieu sait où.
Oui, je ne quitte pas.
Dans le temps, on lisait des revues porno, maintenant c'était les catalogues de mobilier.
Non, personne n'est jamais mort d'insomnie.
Et si j'étais atteint de narcolepsie ? Je m'endors et parfois je me réveille dans des lieux bizarres sans savoir comment j'y suis arrivé.
Vous devez vous détendre.
Vous pouvez me prescrire un médicament.
Du Tuinal en gélule rouge et bleu, du Seconal en gélule rouge baiser.
Non. Il vous faut un sommeil naturel et sain. Mâchez des racines de valériane et tâchez de faire un peu plus d'exercice.
Ah, je vous en prie, je souffre.
Vous voulez en voir de la souffrance ? Faites un petit tour à l'église méthodiste le mardi soir. Vous verrez des gars qui ont un cancer des testicules. Ça, c'est de la souffrance.
Attention! S'il vous plaît. Monsieur, attention!
Hé, hey, oh!
Non, mais regarde où tu vas.
Pardon, s'il vous plaît, madame...
Hé, hey, voyons!
Calme-toi!
Attention! C'est urgent, attention!
Merde! Oh, fais attention!
Mais tassez-vous!
Ah!
S'il vous plaît! Bordel! C'est chaud!
Ouch!
Excusez-moi, mademoiselle. Ah,
oh, pis merde!
Hé, hey, man, tasse-toi!
Tassez-vous!
Fuck, j'ai encore pogné une hostie de ticket.
Vous êtes toujours à l'écoute de Aube, une émission présentant des initiatives qui cherchent à réaliser une autre vision du monde.
Plus tôt en début d'émission, nous avons entendu le monologue Le Transport en collaboration,
une capsule de Bernard Werber du nom de Encyclopédie du savoir relatif et absolu sur l'orientation,
un reportage sur le compagnonnage en France,
on a entendu le radiothéâtre Perdu dans Babylone,
l'apostrophe de Monsieur Tubercil sur les objets enchantés.
Il y avait un extrait de Fight Club qui parlait de cocooning Ikea.
Et la musique de Plume la traverse avec Chasse gardée.
Si vous avez manqué la première partie, ou si vous voulez écouter n'importe quel de nos premiers épisodes, vous pouvez les télécharger sur le site laplumedefeu.com.
Rembarquez avec nous à venir dans la deuxième partie.
L'ouverture par les lieux ou la réintégration des artistes dans une communauté.
La perception du métro dans le cinéma.
L'hommage aux pirates d'Hochelaga Maisonneuve.
Un voyage à bord de l'autobus 66 de Boulevard et la capsule Bagdad Café.
Et la musique de Samuel avec La Sortie.
Pour l'instant, voici les nouvelles du front. C'est le secteur du transport qui produit le plus d'émissions de gaz à effet de serre au Québec. À lui seul, le transport routier représente 35 % des émissions totales. Cette réalité est semblable à bien des égards partout dans le monde, et il est impératif que nous développions de nouvelles stratégies de transport si nous souhaitons réellement limiter le réchauffement de la planète à 2 degrés et éviter le dérèglement climatique potentiellement catastrophique. heureusement, des solutions émergent et plusieurs citoyens s'impliquent afin de changer les choses. Ici Guillaume Lambe avec les nouvelles du front. D'abord, du côté des innovations technologiques. On annonçait tout récemment les premiers tests en Angleterre d'une route capable de recharger les véhicules électriques pendant qu'ils roulent. L'autonomie des batteries, principal obstacle à l'adoption des véhicules électriques, serait alors infinie. Quant à elle, la compagnie StoreDot travaille à la mise au point d'une batterie qu'on pourrait recharger en 5 minutes, soit moins de temps qu'il en faut pour faire un plein d'essence. De toute façon, si vous n'êtes qu'un conducteur moyen, la technologie de la voiture électrique vous conviendra déjà très bien. Il suffit de consulter le blog roulerelectrique.com pour vous en convaincre. Mais remplacer tous les véhicules existants par des véhicules électriques ne réglera pas le gaspillage de ressources qui va dans leur fabrication et les problèmes de circulation. Voilà pourquoi plusieurs initiatives de covoiturage et de partage de véhicules voient le jour. N'empêche que rien ne vaudra jamais le bon vieux vélo. Si on considère la consommation d'énergie par kilomètre, celui-ci termine loin devant tous les autres modes de transport, même la marche. Comparé à l'automobile, il est 33 fois plus efficace. Pourtant, la place du vélo sur les routes est toujours contestée, et le simple fait de se déplacer continue d'être un acte dangereux pour bon nombre de cyclistes partout dans le monde. En 2011, un animateur de radio de la ville de Québec imaginait la campagne « Let's honk a cyclist » qui invitait les automobilistes à s'approcher le plus près possible des cyclistes qu'ils croisaient et à les klaxonner pour leur faire peur. Je m'imagine suivi d'un de ses chauffeurs et de son véhicule de plusieurs tonnes sur ma petite bécane et j'en suis terrifié. En France, en 2013, les cyclistes ont été impliqués dans plus de 4000 accidents. De ce nombre, 147 sont décédés. Au Québec, les statistiques de 2012 recensent 1954 cyclistes victimes d'un accident de la route, dont 88 ont été gravement blessés et 13 sont décédés. Évidemment, on rappelle à tous d'être vigilants, mais on peut aussi se demander s'il n'est pas temps d'entreprendre une grande réflexion collective. Dans ce domaine, la ville de Copenhague donne l'exemple afin de rendre les déplacements à vélo simples, efficaces et sécuritaires pour tous. Les statistiques démontrent que 45% des résidents de la région de Copenhague vont à l'école et au travail en vélo. Un taux qui monte jusqu'à 63% chez les 600 000 résidents de la ville. Toujours sur le front de la sécurité de nos routes, un rapport de la ville de Montréal datant de 2005 rappelait que, à Montréal, environ 5 piétons par jour sont blessés légèrement, gravement ou mortellement suite à un accident sur le réseau routier. Évidemment, plusieurs initiatives sont mises de l'avant afin de rendre nos routes plus sécuritaires. On n'a qu'à penser aux plus récents aménagements dans l'arrondissement du plateau Mont-Royal. N'empêche qu'en 2014, 52 piétons ont perdu la vie au Québec. Il faudra donc compter sur l'engagement de chacun, afin de rendre nos rues plus sécuritaires et moins polluantes. Si certains optent pour l'autopartage, la voiture électrique ou le transport en commun, d'autres choisissent simplement de ralentir. Pour Aube, c'était Guillaume Lambe, avec les nouvelles du front.
Le système social actuel est défaillant. Il ne permet pas aux jeunes talents d'émerger, ou bien il les autorise à émerger qu'après les avoir fait passer par toutes sortes de tamis qui, au fur et à mesure, leur enlèvent toute saveur. Il faudrait mettre sur pied un réseau de lieux ouverts où chacun pourrait, sans diplôme et sans recommandation particulière, présenter librement ses œuvres en public. Avec des lieux ouverts, tout devient possible. Par exemple, dans un théâtre ouvert, tout le monde présenterait son numéro ou sa scène sans subir de sélection préalable. Seul impératif, s'inscrire au moins une heure avant le début du spectacle. Pas la peine de présenter ses papiers, il suffirait d'indiquer son prénom. Et ne pas dépasser 6 minutes. Avec un tel système, le public risque de subir quelques avanies, mais les mauvais numéros seraient hués et les bons seraient retenus. Pour que ce type de théâtre soit viable économiquement, les spectateurs y achèteraient leur place à prix normal. Ils y consentiraient volontiers car en 2 heures, ils auraient droit à un spectacle d'une grande diversité. Pour soutenir l'intérêt et éviter que les 2 heures ne soient, le cas échéant, qu'un défilé de débutants malhabiles, des professionnels confirmés viendraient à intervalles réguliers soutenir les postulants. Ils se serviraient de ce théâtre ouvert comme d'un tremplin, quitte à annoncer « si vous voulez voir la suite de la pièce, venez tel jour, en tel lieu ». Ce type de lieu ouvert pourrait ensuite se décliner ainsi. Cinéma ouvert, avec des courts-métrages de 10 minutes proposés par des cinéastes en herbe, salle de concert ouverte, pour apprentis chanteurs et musiciens. Galerie ouverte, avec la libre disposition de 2 mètres carrés, chacun pour sculpteur et peintre encore inconnu. Ce système de libre présentation s'étendrait aux architectes, aux écrivains, aux publicistes. Il court-circuiterait des lourdeurs administratives. Les professionnels disposeraient ainsi de lieux où recruter de nouveaux talents, sans passer par les agences traditionnelles qui font perpétuellement office de sas. Enfin,
jeunes, vieux, beaux, laids, riches, pauvres, nationaux ou étrangers. Tous disposeraient alors des mêmes chances et ne seraient jugés que par les seuls critères objectifs, la qualité et l'originalité de leur travail.
Un texte tiré de l'Encyclopédie du savoir relatif et absolu de Bernard Werber. BernardWerber.com.
Dans un pays froid et en contexte urbain comme à Montréal, évidemment, c'est le métro qui reste le moyen de transport privilégié. Les transports en commun n'ont pas une bonne image dans le cinéma québécois et sont, par opposition aux véhicules individuels, la voiture, la moto ou le vélo, anti-identitaires. Dans les autobus, on peut se battre comme dans Coyote 92 ou vivre des amours impossibles, Sonatine 84. On peut même disparaître à jamais quand on en sort, Continental, un film sans fusil. On y réfléchit, mélancolique, Suzy ou Loin du soleil en 2009. Le train de banlieue n'a pas une meilleure image. Le bonheur, c'est une chanson triste, 2004. Quand Anne-Marie le prend après une rencontre douce-amère avec un ancien amoureux, ou encore dans L'âge des ténèbres, 2007, quand tous les passagers sont au téléphone cellulaire à l'exception de Jean-Marc et d'un homme endormi. Le métro, dans quelques films, est présenté comme un monde souterrain où l'on meurt, où on souffre, où on soupire. Et dans ce sens, c'est doublement un lieu de passage. Dans 32 août sur Terre, Philippe meurt à l'entrée du métro. Dans Sonatine, c'est à l'intérieur d'un wagon qu'on meurt. Et dans l'inoubliable Jésus de Montréal, 89, sur la voie d'embarquement où agonise notre Jésus, si magnifique, Lothaire Bluteau. Dans le polygraphe, Lucie est témoin d'un suicide dans le métro. Et c'est même à cette occasion qu'elle rencontre Christophe, témoin de ce suicide qui deviendra son amant. Le métro est redouté par Laura Cadieux qui craint d'emprunter l'escalier roulant. Et son fils s'y perd presque, le retrouve heureusement. Dans le métro où les conversations privées se tiennent debout et sont entendues de tous, surtout au cellulaire, noces de papier. Tout le contraire du huis clos que forme l'automobile où sont assis confortablement les passagers. Que le métro soit positivement connecté et une occasion de rire est très exceptionnelle. Il était une fois dans l'Est. Bref, le métro est un monde souterrain, plus associé aux enfers qu'au mouvement. C'est signé André Fortin, qui vient de l'autre journal, un autre de nos merveilleux journaux gratuits.
En Hochelagadie, quand le soleil se tanne de ne pas avoir été, on se réjouit drette à la pointe de son audace en se la montrant. Au complet. Pas de bretelles, pas de tabou d'aisselle, ni de doute sur le format ou la tension de l'épiderme. On se la sort, point. Bédaine d'abord, on se retrouve dehors. L'origine de quelques-uns exhibés et fiers. Comme si on était toute la gang sur le balcon de l'un puis de l'autre. Élément du patrimoine local, que dis-je, véritable légende. Ma préférée, ben, la bedaine, je vous le rappelle, est sans aucun doute celle du pirate unijambiste hirsute. Homme marge à la peau de cuir, au vécu pas lisse, pas liché, il pose souvent sa patte droite de plastique, indépendamment du reste de son corps, sur le banc public. Paradoxe d'attachantitude malgré l'air qu'il se donne. Assez pour prendre un pli, il nous pousse la chansonnette, cigarette au bisou, en s'arrêtant parfois pour nous offrir une parabole botchée.
Jésus vous aime!
Pendant plusieurs années, on avait un violoniste à trois cordes, trois tunes. Il grinçait partout dans le quartier avec passion, en faisant des chiffres de 12 heures sous la pluie. Mark, qui s'appelait. Ben, il me semble. Vous demanderez à mon fils, c'est lui qui a la mémoire des prénoms. Moi, je l'appelais l'homme violon. Ben, l'homme violon, on l'a perdu. Mais on a gardé notre pirate. Et notre pirate crie doux. comme quelques autres d'ailleurs. Pour moi, ces gens-là mettent du vif sur le bitume et veillent, sur nous, les passants et les dormeurs. Étrangement ou candidement peut-être, plus que le silence d'une ville qui fait trop de ménage, ces êtres me charment et me rassurent.
Texte et narration, Annick Daigneault.
Dans la cohue du samedi après-midi, je me joins à la longue file d'hommes et de femmes qui attend patiemment le bus 66. Exactement à l'heure, une fois par heure, le 66 de Boulevard quitte le coin des rues de Maisonneuve et Guy, à deux pas du métro Guy Concordia. La ligne part du centre-ville de Montréal et traverse tranquillement les quartiers Westmount et Notre-Dame-de-Grâce jusqu'à la pointe ouest. Et moi, je vais en bout de ligne. Tous ensemble, on grimpe la rue Guy. Le moteur rugit et par les fenêtres, on peut voir les nombreux commerces. Le moteur rugit encore et le bus tourne sur la rue Dr. Penfield. Des maisons cossues et des entrées garnies de Mercedes se laissent regarder par les vitres de l'autobus. Sous un soleil éblouissant, le bus 66 grimpe sur le flanc ouest du Mont-Royal. Quelque part, de l'autre côté de la montagne, très très haut, existe un endroit dont j'ai entendu parler dans une berceuse. Un endroit extraordinaire, surplombant la ville. Un endroit où le ciel est bleu et les nuages loin, loin, loin de là. Vous avez tout compris. Le bus tourne sur The Boulevard. Et à partir de là, c'est merveilleux. C'est que le 66 emprunte une des rues les plus riches de la ville, desservie par le transport public, The Boulevard. Une voie étroite à double sens qui ondule doucement. Un bijou qui ne laisse pas indifférents les passagers du bus 66.
En fait, ce que j'aime bien, c'est que par rapport aux autres bus, tu as comme, tu passes en fait le temps à regarder les belles maisons, à rêvasser, puis c'est cool. Donc c'est ça.
Est-ce que vous rêvassez que vous habitez dans une de ces maisons-là?
Oh que oui. Les belles voitures, les belles maisons, oh oui, oui, oui. Complètement oui.
C'est comme un jour, je vais voir une de ces Ferrari que je peux voir dans la ligne 66.
J'aimerais habiter là. Ouais, vraiment.
La ville de Westmount écrit sur son site internet qu'avec ses 11 000 arbres et ses innombrables pelouses et jardins soignés, Westmount est un véritable bijou, sirti au cœur du territoire métropolitain. Après les splendeurs de Westmount, le 66 fait son entrée sur Côte-Saint-Luc et amorce sa descente. Les énormes maisons font place à des tours d'appartements. On traverse le boulevard des Carrés. Les commerces réapparaissent sur le bord de la route et on peut lire les mots pizza et nettoyeur. Les passagers se remettent à monter et descendre du bus. Rue Randall. Vous connaissez? Moi non plus. Des duplex, des triplex, des quadruplex. On traverse le boulevard Cavendish. On tourne encore sur la rue Chester. Vous connaissez? Moi non plus. Je me surprends à penser que je suis complètement désorientée. Je suis complètement perdue. Puis tout à coup, tout le monde descend. C'est le terminus. Et si je vous dis la rue Walkley, vous connaissez? C'était Anne-Sophie Carpentier, quelque part à NDG, pour l'Escouade M.
We'll be right back.
personne, sans télé, sans patron, sans mari et sans chien, à refaire sa maison dans une ruche sans reine, loin des princes charmants qui voudraient changer son nom. Prenez amant tout amant, selon les saisons. Une question de goût. On peut pas par ici sortir.
Philippe, on a choisi de mettre le mot-clé « escale ». Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, une escale?
Ben moi, ça m'évoque une grande ville. Habituellement, quand on arrive dans une grande ville, on fait une escale. Paris, Londres, Madrid. C'est une sorte d'étape, mais en même temps, c'est une étape significative.
On en profite peut-être pour se ravitailler aussi.
Faire son lavage. Moi, je fais souvent mon lavage quand j'arrive dans une grande ville. Je vais prendre une auberge.
C'est le moment d'aller chercher le guide du routeur puis de voir un peu qu'est-ce qu'il y a à faire aux alentours. Là.
Ouais.
On est prêt à partir?
Parti.
This is where mechanical excellence, 1,400 horsepower, pays off.
Bon, le réservoir est plein. Le silencieux pétarade comme une mitrailleuse enrayée. En sirotant mon café, couleur mazout, je regarde l'autoroute où filent les voitures. Elles sont comme des bouteilles de vitres géantes glissant le long de l'asphalte noir. À l'intérieur des bouteilles, je vois des humains stressés. Et ça tourne lentement sur l'échangeur, deux par deux ou bien seul, deux par deux ou bien seul. Où j'allais déjà? Ah oui, l'éco-village. Un monde meilleur. Pourtant, ceux qui dirigent ici les bombardent au napalm, et rien ne semble indiquer que ça va changer. Vu du ciel, la ville est une immense machine faite de conduits de goudron parcourus de gouttes d'acier qui irriguent des tonnes de magasins, d'appartements et de bureaux. Oui, je suis bien devant le moteur à explosion de la ville, et ça enterre même le bruit de la télé accrochée au-dessus de la tête de la serveuse.
Comment vos œufs?
Miroir. Et eux, où vont-ils donc tous? C'est simple pourtant, ils vont comme chaque matin produire des produits et des services plus ou moins utiles qu'ils vendent pour payer leur voiture et leur maison. Ils donneront pendant leur existence plus de 6 années de leur vie active pour payer leur voiture et plus de 11 pour leur habitation. Et pour se distraire, pendant le peu de temps qu'il leur reste, ils magasinent les produits et services superflus que les autres ont produits comme eux. Tiens, justement sur la télé, encore une de ces pubs pour les motiver à acheter. Normal, ces pubs, puisque pour payer la voiture et la maison des autres, ils devront travailler encore plus que ces 16 années dont j'ai parlé et devront acheter à tout prix le travail des autres. Et ce même s'ils n'en ont pas vraiment besoin. C'est une entente tacite, voyez-vous. Ce qui, pour la plupart, ne fait pas leur affaire. Alors autant subir un lavage de cerveau pour ne pas sentir la douleur de ce mal de vivre imposé. Ceux qui n'auront pas la chance de vendre leur travail se retrouveront sur le trottoir à marcher sans but en respirant la pollution des autres. Tant de temps et de vie perdus pour aller simplement travailler et se protéger du froid. Que faire? Pourquoi ne pas simplement éliminer la maison ou la voiture et ainsi les libérer un peu? La maison, par exemple.
C'est le genre de monde qui est imaginé dans les Manches bitumes. Une bande dessinée de science-fiction des années 70 qui imagine un monde où nous serions tous, toujours, sur l'autoroute, à tourner en rond, 24 heures sur 24, dans des motorhomes avec autopilote, à manger dans des drive-in et à se divertir dans des cinépas. Dans ce paradis, la presque totalité du territoire est pavée de routes et, sur le peu de verdure qui reste, l'agriculture est faite par de gigantesques moissonneuses, batteuses, usines alimentaires automatisées. C'est aussi le genre de monde qu'imagine le groupe de discussion Alt Pave the Earth, qui se creuse et ménage depuis longtemps pour faire de la Terre un paradis pour les voitures. Je vous conseille d'aller tout de suite sur leur site internet pour rencontrer ces humains qui ne veulent rien de moins que de paver d'asphalte la Terre entière.
Une autre alternative est d'éliminer le deuxième gadget, la voiture.
Je vis dans un pays où on vend plus de 500 voitures par jour. Il est aussi difficile de se débarrasser de la voiture que d'arrêter de fumer. Ni Henry Ford ni les urbanistes n'avaient prévu qu'il y en aurait autant. Car même si les humains n'ont pas trop de difficultés à partager la route et l'air pollué, ils partagent difficilement leur voiture et le reste. Peut-être que, comme pour les habitations, les coops sont un début de solution pour s'adapter à la réalité d'un monde où il vaut mieux être en vie qu'avoir et mourir. Si je veux vraiment diminuer ma consommation de voiture, les méthodes recommandées par le docteur sont généralement le transport en commun, les taxis, le covoiturage, allostop, communauto, le télétravail et bien sûr, le vélo.
Bon, assez de discours, je passe à l'action. J'ai fini mon déjeuner et je crois que je vais abandonner ma voiture là et repartir à pied. De toute façon, c'est définitivement le printemps. Malheureusement, mon vélo grogne-grince d'avoir été abandonné tout l'hiver sous la neige. Il faudrait que je le retape pour pas cher. Heureusement pour ça, il y a la Voie Libre, une coop vélo créée par les étudiants de l'Université de Concordia. Tous les outils professionnels sont là, bien rangés, à ma disposition. On m'aidera même dans la réparation de mon vélo, car il y a toujours des mécaniciens là pour m'aider et me montrer gratuitement comment faire. Ils semblent aussi habiles pour balancer une roue qu'une planète. On y entend souvent des conversations savantes sur les problèmes du monde et sur des solutions concrètes. Je peux utiliser des pièces récupérées, gratuites elles aussi, bien classées dans des tiroirs ou acheter des pièces neuves à prix modique. Je peux aussi laisser sur place mon work in progress, le temps de finir de l'assembler pour une période maximale de 6 mois. Je peux même faire un essai gratuit d'atelier que la cotisation annuelle n'est que de 20$. Par contre, comme je dois encore partager la route avec les voitures, je dois faire attention car, selon l'OMS, la pollution due aux voitures tue davantage que les accidents de la route. En attendant que l'humanité ait trouvé une solution pour me protéger, il y a toujours les masques à gaz pour cyclistes. Chaque année, il y a un tour de l'île de Montréal, une journée presque sans voiture. Peut-être un jour, il y aura le jour des voitures, puisque tous les autres seront pour les vélos. On peut toujours rêver.
Un texte de Christian Fleury, tiré de Aube, le recueil de solutions.
Conclut l'épisode Y de Aube.
Toutes nos émissions vous sont offertes en balado et peuvent être téléchargées via laplumedefeu.com. Si vous vous sentez inspiré par notre émission, nous reprenons la route et nous vous invitons à vous joindre à nous. Chaque émission est le fruit des collaborateurs du moment.
Si vous avez deux secondes pour nous donner vos commentaires sur laplumedefeu.com, sur Facebook ou via Twitter.
Dans cette émission, vous avez entendu les œuvres de Philippe Laramé, Guillaume Lambe,
Aurélie Superchico, Maude Campeau, Jean-Baptiste Gardarin, Annie Schneider,
Annick Degnaud, Anne-Sophie Carpentier et Dominique Lagu.
À la co-réalisation, au montage et à la mise en onde, Philippe Laramé et Guillaume Lambe.
Suis-je transgénique ou biologique? Devrais-je montrer mon petit côté grano près de la nature ou mon côté futuriste avec mon portable et ma caméra numérique?
Mais vous êtes les deux, Monsieur Mini Roots.
Ah oui?
Mais oui! Avec le protocole de Cartagena sur la biosécurité, tu n'as plus à t'inquiéter. Tes propriétés sont protégées pour l'éternité.
Mes voisins du sud dépendent régulièrement des semences transgéniques. Mais qu'est-ce que je peux faire?
Ne t'en fais pas. Personne ne connaît les propriétés mutagènes des aliments transgéniques. Tout le monde t'aime quand même.
Oui, mais je me sens coupable de porter en moi des gènes aussi controversés que le gène Terminator.
Mais ce n'est pas grave. Avec la complicité des gouvernements, les compagnies ne sont même pas obligées d'écrire la vraie origine des ingrédients sur les étiquettes.
Ah bon? Alors je pourrais introduire des gènes de scorpion, de chèvre, de poisson ou de chromosomes mutants venus du tiers-monde?
Mais bien sûr que oui.
Non, je refuse d'être ainsi manipulé.
Il est déjà trop tard, Monsieur Mini Roots. La diversité touche à sa fin.
Non, mais c'est terrible!